Chapitre 3. Le Dogan, seconde partie. 1. Au Rocking Bee, Jake et Benny Slightman passèrent cette même matinée dans les trois granges du ranch à transporter les balles de foin des fenils du haut au fenil du bas, puis à les ouvrir. L'après-midi serait réservé à la baignade et aux bagarres dans les eaux de la Wye, ce qui était plutôt plaisant si on évitait les trous profonds. Cela était déjà froid. Entre ces deux activités, ils dévorèrent un gigantesque déjeuner dans le bâtiment dortoir avec une demi-douzaine des ouvriers, mais sans Slightman l'aîné. Il s'était rendu chez les Telford au ranch Buckhead afin de conclure une vente de bestiaux.
« J'avais jamais vu le gamin de Ben travailler si dur de toute ma vie !» lança Cookie en posant les côtelettes frites sur la table et en regardant les garçons se jeter dessus avec voracité.
« Tu vas nous le tuer à la tâche, Jake !»
C'était bien l'intention de Jake, évidemment. Entre le foin le matin, la natation l'après-midi et encore une bonne dizaine de sauts dans la grange dans le soleil couchant, il se disait que Benny dormirait comme un mort. Le problème, c'est qu'il en ferait peut-être autant lui-même. Quand il sortit se débarbouiller à la pompe, le soleil était alors couché depuis un moment, laissant derrière lui des cendres de roses qui glissaient vers le noir profond. Il emmena Otey avec lui. Il s'aspergea le visage et fit gicler des gouttes pour que l'animal les attrape, ce qu'il fit avec empressement. Puis Jake mit un genou en terre et prit doucement la tête du bafouilleux entre ses mains.
« Écoute-moi, Otey.
Otey,
je vais aller me coucher, mais quand la lune se lèvera, je veux que tu me réveilles, mais sans faire de bruit. Tu as un tweet ?»«
Tweet !»
Ce qui voulait tout dire et rien dire. S'il avait fallu prendre des paris, Jake aurait misé sur tout plutôt que sur rien. Il avait une grande confiance en Otey. Ou peut-être était-ce de l'amour. Ou peut-être que cela revenait au même.
Quand la lune se lèvera. Dis lune, Otey.
Lune.
Jake fut satisfait, mais n'en régla pas moins sa propre horloge interne pour se réveiller au lever de la lune. Parce qu'il voulait se rendre là où il avait vu le pas de Benny discuter avec Andy la dernière fois. Cet étrange rendez-vous avait tendance à le tracasser de plus en plus au fil du temps. Il ne voulait pas croire qu'il existait un lien entre les loups et le pas de Benny, ou Andy d'ailleurs, mais il devait en avoir le cœur net, parce que c'est ce que ferait Roland, et c'était une très bonne raison.
2.
Les deux garçons étaient allongés dans la chambre de Benny. Il n'y avait qu'un lit que Benny avait bien entendu offert à son invité, mais Jake avait refusé de le prendre. Ils étaient tombés d'accord sur un système de rotation, selon lequel Benny dormait dans le lit les nuits de main paire et Jake les nuits de main impaire. C'était au tour de Jake de dormir par terre, ce qui tombait très bien. Le matelas en duvet de canard de Benny était beaucoup trop mou. Au vu de son plan de se relever en pleine nuit, le sol était une bien meilleure solution. C'était plus sûr. Benny était allongé, les mains croisées derrière la tête, les yeux rivés au plafond. Il avait réussi à attirer Otey avec lui sur le lit, et le bafouilleux dormait en rond, en virgule, la truffe sous sa queue entortillée de dessins animés.
« Jake !» murmura Benny. « Tu dors ?»«
Non.
Moi non plus. » Silence. « C'est chouette que tu sois là. »«
Pour moi aussi, »
répondit Jake. Et il le pensait.
« Parfois, quand on est fils unique, on s'ennuie. »« À qui le dis-tu ? Et moi, j'ai toujours été fils unique. »
Jake marqua une pause.
Tu as dû être triste après la mort de ta sœur. Parfois, je suis encore triste. Au moins, lui dit-il sur un ton neutre, ce qui rendit la chose moins difficile à entendre. Tu penses que vous resterez après avoir battu les loups?
Sans doute pas longtemps.
Vous poursuivez une quête, pas vrai?
Je dirais ça, oui.
La quête de quoi?
Du moyen de sauver la tour sombre, dans ce cas où, et la rose, dans le New York d'où Eddie, Susanna et lui venaient. Mais Jake ne voulait pas dire ça à Benny, bien que l'aimant beaucoup. La tour et la rose étaient des secrets, en quelque sorte. C'était l'affaire du cas. Mais il ne voulait pas non plus mentir.
Roland ne parle pas beaucoup de ces trucs-là.
Le silence dura plus longtemps cette fois. Puis Jake entendit Benny se retourner avec précaution pour ne pas déranger Otey.
« Me fais un peu peur, ton Dean. »
Jake y réfléchit, puis répondit.
« À moi aussi, il me fait un peu peur. Il fait peur à mon pas. »«
Vraiment ?» demanda Jake, soudain sur le qui-vive.
« Oui. Il dit qu'il ne serait pas surpris qu'après vous être débarrassé des loups, vous vous retourniez contre nous. » Et puis, il dit qu'il plaisante, mais que ce vieux cow-boy avec son visage dur lui fait peur.
Je me suis dit qu'il devait parler de votre Dean, non ?
Ouais,
reconnut Jake. Jake commençait à croire que Benny s'était endormi quand le jeune garçon demanda.
À quoi ressemblait ta chambre, là d'où tu viens ?
Jake repensa à sa chambre et trouva tout d'abord très difficile de la décrire. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus pensé, et maintenant qu'il se la rappelait, il était embarrassé de devoir la décrire en détail à Benny. Selon les critères de la Cala, son ami vivait confortablement. Jake se doutait qu'il devait y avoir très peu de gosses de son âge ayant leur chambre à eux dans ces petites exploitations. Mais il considérait la chambre de Jake comme le royaume enchanté d'un prince. La télévision? La chaîne IFI avec tous ses disques et le casque pour être tranquille? Les posters de Stevie Wonder et de Jackson 5, son microscope qui lui ouvrait des mondes trop minuscules pour être vu à l'œil nu. Était-il censé énumérer tant de miracles et de merveilles à ce garçon?
Elle était comme la tienne, sauf que j'avais un bureau, finit par dire Jake.
Un bureau pour écrire? S'exclama Benny en se redressant sur un coude. « Eh ben, ouais !» répondit Jake d'un ton qui voulait dire « À quoi d'autre veux-tu qu'il serve, vieux ?»«
Avec du papier, des crayons, des plumes ?»«
Du papier, oui ?» C'était là une merveille que Benny pouvait appréhender. « Et des stylos ?»« Mais pas à plumes, à billes. »« Des stylos à billes ? Je comprends pas. » Alors Jake lui expliqua, mais au milieu de sa description, il entendit un ronflement. Il se tourna vers son ami et le vit toujours face à lui, mais les yeux fermés. Otey ouvrit les yeux. Il luisait dans le noir, puis fit un clin d'œil à Jake. Après quoi, il parut se rendormir. Jake contempla Benny pendant un long moment, profondément troublé, d'une manière qu'il ne comprenait pas bien. Ou ne voulait pas comprendre. Il finit par s'endormir lui aussi. 3. Au bout de quelques heures sombres et sans rêve, une pression sur le poignet le ramena à un semblant de conscience. Quelque chose tira sur sa main, quelque chose qui faisait presque mal. Des dents. Les dents d'Otey.
Otey, non, arrête, marmonna-t-il.
Et Otey ne voulait pas arrêter. Il tenait le poignet de Jake entre ses mâchoires et il continua de l'agiter doucement de gauche à droite, s'interrompant parfois pour tirer d'un coup sec. Il ne renonça que quand Jake se redressa et s'assit, le regard embrumé, perdu dans l'obscurité balayée d'un flot d'argent.
« L'île !»
fit Otey. Il était assis par terre à côté de Jake, la mâchoire ouverte. Il souriait, aucun doute, et les yeux brillants. Ils auraient dû être brillants. Une minuscule pierre blanche brûlait au fond de chacune de ses pupilles.
« Lune !»«
Ouais !»
murmura Jake. Puis il referma la main autour du museau doté.
Chut !
Il relâcha le bafouilleux et regarda en direction de Benny, qui s'était tourné vers le mur et ronflait profondément. Jake doutait que même un obusier pût le faire bouger.
« Lune !»
dit Otté. Beaucoup plus doucement, en regardant par la fenêtre.
« Lune ! Lune ! Lune !»
4. Jake aurait bien monté à cru, mais il fallait qu'il emmène Otté, ce qui rendait la monte à cru hasardeuse, voire impossible. Par chance, le petit poney frontalier que Cy Overholser lui avait prêté était aussi doux qu'un agneau, et il trouva dans la sellerie de la grange une vieille selle d'entraînement éraflée que même un gamin pouvait manipuler sans peine. Jake sella le cheval, puis attacha son sac de couchage à l'arrière de la selle que les cow-boys de la Cala appelaient le bateau. Il sentait le poids du burger dans le sac et sa forme s'il la cherchait de la main. Le poncho avec sa poche avant était accroché à un clou dans la sellerie. Jake le prit, le fit claquer pour lui donner la forme d'une grosse ceinture et se le noua autour de la taille. C'est comme ça que les gosses de son école portaient parfois leur chemise quand il faisait chaud. Comme celui de sa chambre, ce souvenir lui parut très lointain, comme la parade d'un cirque qui aurait traversé la ville puis aurait repris la route. Cette villa était plus riche, chuchota une voix grave dans sa tête. Celle-là est plus vraie, renchérit une autre, plus grave encore. Il crut la seconde voix, mais son cœur ne restait pas moins lourd de chagrin, tandis qu'il menait le poney frontalier derrière la maison en passant par la grange. Otté lui courait sur les talons, levant de temps à autre le nez vers le ciel pour marmonner « Lune, lune !» et reniflant assidûment les odeurs qui s'entrecroisaient sur le sol. C'était une excursion dangereuse. Rien que la traversée de la Dvertetewai, qui allait du côté de la Cala au côté de Tonfoudre, était périlleuse, et Jake le savait. Pourtant, ce qui le tracassait le plus, c'était cette douleur, ce sentiment de tristesse imminente. Il repensa à Benny qui lui disait que c'était chouette d'avoir quelqu'un au Rocking Bee avec qui être copain. Il se demanda si Benny dirait la même chose dans une semaine. « Peu importe, soupira-t-il, c'est le cas. »« Cas !» répéta Otté, puis il leva la tête.
« Lune !» Lune, lune, ka.
La ferme, dit Jake, mais sans aucune méchanceté.
La ferme, ka, dit Otté gentiment. La ferme, lune, la ferme, aké,
la ferme, Otté. Il n'en avait pas tant dit depuis que Jake le connaissait. Et une fois sa tirade terminée, il se tut. Jake mena son cheval à la bride pendant encore une dizaine de minutes, dépassa le bâtiment dortoir et sa symphonie de ronflements, de grognements et de paix, puis franchit la colline suivante. Puis, arrivant en vue de la route de l'Est, il jugea sûr de monter en selle. Il déroula le poncho, l'enfila, mit Otté dans la poche et monta sur son cheval. 5. Il était quasiment certain de pouvoir se rendre directement à l'endroit où Andy et Slightman avaient traversé le fleuve, mais se rappela qu'il n'avait jeté qu'un seul coup d'œil, et Roland aurait sans doute dit que ça ne suffisait pas en pareille circonstance. Aussi retourna-t-il à l'endroit où Benny et lui avaient planté leur tente, puis de là au promontoire de granit qui saillait du sol comme un vaisseau en partie enfoui. Une fois encore, Otté lui soufflait dans l'oreille. Jake n'eut aucune difficulté à visualiser le rocher rond et brillant, ainsi que le tronc mort échoué, car depuis des semaines, la rivière n'avait fait que baisser. Il n'avait pas plu, et Jake comptait là-dessus pour se repérer plus facilement. En rampant, il retourna jusqu'à la plat où ils avaient campé. C'est là qu'il avait laissé son poney accroché à un buisson. Il le mena jusqu'à la rivière, puis attrapa Otté et traversa à cheval. Le poney n'était pas grand, mais l'eau ne lui arrivait pas plus haut que les boulets. En moins d'une minute, ils se retrouvèrent sur l'autre rive. Le décor paraissait le même de ce côté, mais il ne l'était pas. Jake le sentit immédiatement. Clair de lune ou pas, il y faisait plus sombre. Pas tout à fait la même obscurité que celle du Varadash. Au moins, Jake en était-il certain. Il se sentit un peu apaisé après avoir sorti le crampon de débardeur de son sac, l'avoir sanglé et y avoir placé le rugger. Avec le rugger, il devenait un autre qu'il n'aimait pas toujours. Mais ici, sur cette rive du fleuve, il fut ravi de sentir le poids de l'arme contre son flanc, d'être cet autre, ce pistolero. Au loin, à l'est, il entendit un cri, comme une femme qu'on égorge. Jake avait beau savoir que ce n'était qu'un chat des roches, il en avait déjà entendu au bord de la rivière quand il était allé nager ou pêcher avec Benny. Il porta toutefois instinctivement la main à la crosse de son rugger jusqu'à ce que le bruit se fût tu. Otté avait courbé le dos, les deux pattes de devant écartées, la tête baissée et la croupe en l'air. Cette position signifiait en général qu'il voulait jouer. Pourtant, il n'avait rien pour jouer à portée de croc.
« Ça va, » le rassura Jake.
Il recommença à fouiller dans son sac de couchage. Il n'avait pas pris la peine d'emporter une sacoche. Puis en sortit un chiffon à carreaux rouges. C'était le mouchoir de Slightman l'aîné qu'il avait volé 4 jours plus tôt sous la table du dortoir où le contremaître l'avait laissé tomber pendant une partie de surveille-moi pour l'oublier ensuite.
« Quel bon petit voleur je fais !» se dit Jake. « Le revolver de mon père et maintenant le mort-voile du papa de Benny. Je ne sais pas si je monte en grade ou si je descends. »
C'est la voix de Roland qui lui répondit. Tu fais ce que tu as à faire ici. Pourquoi tu ne t'y mettrais pas au lieu de te flageller?
Le mouchoir entre les mains, Jake regarda Otté.
Ça marche toujours dans les films, dit-il au bafouilleux.
Je ne sais pas si ça marche dans la vraie vie, surtout après les semaines.
Il tendit le mouchoir à Otté qui tendit son long nez et se mit à le renifler délicatement.
« Retrouve cette odeur, Otté. Retrouve-la et suis-la. Otté !»
Mais il resta assis là, à regarder Jake.
« Ça, là, Dumbo !»
répéta Jake en le faisant renifler à nouveau.
« Cherche, vas-y !»
Otté se leva, fit 2 tours sur lui-même, puis partit en sautillant le long de la rive en direction du nord. Il collait de temps à autre la truffe au sol rocheux, mais semblait bien plus intéressé par le hurlement de femme à l'agonie du chat des roches. Jake regardait son ami avec un espoir déclinant. Bon, il avait repéré dans quelle direction était parti Slightman. Il pouvait aller par là, fouiner un peu, voir ce qu'il y avait à voir. Otté se retourna, revint vers Jake, puis s'immobilisa. Il renifla plus attentivement un carré de terre.
L'endroit où Slightman était sorti de l'eau?
Peut-être. Otté émit une sorte d'aboiement de gorge pensif, puis pivota à droite, vers l'est. Il se glissa prestement entre 2 rochers. Jake, à nouveau animé d'une lueur d'espoir, se remit en selle et le suivit. 6. Il n'était pas allé bien loin quand Jake se rendit compte qu'il suivait un vrai sentier serpentant à travers le paysage rocheux, vallonné et aride. Il commença à voir des installations technologiques. Un rouleau de câbles électriques rouillés, quelque chose qui ressemblait à un ancien circuit imprimé enfoui dans le sable, et de minuscules éclats de verre. Dans l'ombre d'un gros rocher se dressant dans le clair de lune, il crut apercevoir une bouteille pleine. Il descendit de cheval, la ramassa, vida le sable accumulé depuis des décennies, peut-être même des siècles, et observa l'objet. Sur le côté, il vit des lettres qu'il réussit à lire. « Nos à la ». La meilleure boisson pour Guignol qui soit, murmura Jake, avant de reposer la bouteille par terre. À côté, il trouva un paquet de cigarettes chiffonnées. Il l'aplatit et vit apparaître le dessin d'une femme aux lèvres écarlates, portant un coquet petit chapeau rouge. Entre deux longs doigts manucurés, elle tenait une cigarette. Parti semblait être le nom de la marque. Pendant ce temps, Otté se tenait à une dizaine de mètres devant et le regardait par-dessus son épaule basse.
« D'accord, dit Jake, j'arrive. »
D'autres sentiers rejoignaient celui qu'ils empruntaient et Jake se rendit compte qu'il était dans le prolongement de la route de l'Est. Il ne voyait que quelques empreintes de bottes et des traces de pas plus petites et plus profondes. Celles-là apparaissaient dans des coins protégés par des rochers élevés, dans des anses au bord de la route que les vents violents n'atteignaient pas. Il en déduisit que les empreintes de bottes étaient celles de Slightman et les traces plus profondes, celles d'Andy. Il n'y en avait pas d'autres. Mais il y en aurait, et dans peu de temps. Des empreintes de sabots, des chevaux gris, des loups, des boulants de l'Est. Et il y aurait des traces plus profondes, se dit Jake, profondes comme celles d'Andy. Plus haut, le sentier serpentait jusqu'au sommet de la colline. De chaque côté se dressaient des cactus formidables, en forme de tuyaux d'orgue, avec des bras gros comme des canons, et qui semblaient viser dans toutes les directions. Otté se tenait là, regardant quelque chose par terre, et il avait une fois de plus l'air de sourire. Quand Jake s'approcha de lui, il sentit l'odeur des cactus. C'était une odeur amère et piquante. Elle lui rappela les martiniers de son père. Il s'assit à califourchon sur son poney, près d'Otté, et regarda par terre. Au pied de la colline, sur la droite, il vit un chemin de ciment craquelé. Une barrière coulissante était restée entrebâillée depuis des lustres, probablement bien avant que les loups ne commencent leur rafle et ne viennent arracher les enfants des calas à leur famille. Au-delà se dressait un bâtiment à toit métallique incurvé. De petites fenêtres jalonnaient le côté que voyait Jake, et il reprit un peu courage en apercevant une lueur blanche à travers les vitres. Pas des scintilles ni des ampoules électriques, que Roland appelait « lampe à étincelles ». Seuls des néons pouvaient diffuser une telle lumière blanche. Dans sa vie à New York, les néons lui rappelaient surtout des événements et des lieux ennuyeux ou malheureux. Les énormes magasins dans lesquels tout était à vendre, mais où on ne trouvait jamais ce qu'on cherchait. Les après-midi somnolents à l'école, au cours desquels le prof parlait pendant des heures du commerce en la Chine ancienne ou des gisements miniers du Pérou, et que la pluie tombait sans discontinuer, et qu'il lui semblait que la cloche ne sonnerait jamais. Le cabinet du médecin, où on finissait toujours assis sur une table d'auscultation recouverte de papier, en sous-vêtements, gelé et embarrassé, et quasiment certain de ne pas repartir sans une bonne piqûre. Ce soir, néanmoins, ses lumières l'égayèrent un peu. « Bon garçon, » dit-il au bafouilleux. Au lieu de réagir comme il le faisait d'habitude en répétant son nom, Otté passa devant Jake et émit un long grognement. Au même moment, le poney fit un écart et poussa un hennissement nerveux. Jake tira sur les rênes, se rendant compte que l'odeur amère, mais pas entièrement désagréable, de gin et de genièvre était devenue plus forte. Il regarda autour de lui et vit deux cactus épineux à sa droite qui pivotaient doucement vers lui. Il y eut un faible crissement. Et Jake vit des gouttes de sève blanche couler le long du tronc du cactus. Sous le clair de lune, les épines sur ses branches qui s'agitaient vers Jake paraissaient très longues et affûtées. Cette chose avait senti sa présence et elle avait faim. « Bien !» ordonna-t-il à Oté, en donnant doucement des talons au poney. Il n'en fallut pas plus à l'animal. Il descendit prestement la colline presque au trot vers le bâtiment au néon. Oté jeta un dernier regard suspicieux au cactus baladeur, puis les suivit. 7. En atteignant le chemin cimenté, Jack s'immobilisa. À une cinquantaine de mètres plus bas sur la route, car il s'agissait bel et bien d'une route, ou de ce qui avait été une route, des rails traversaient le passage pour aller se perdre en direction de la Devartetewai qu'ils enjambaient sur un pont. Les vieux Falkland l'appelaient « la chaussée du diable », leur avait appris Callahan. Les trains qui ramènent les crânés de tonnes foudre empruntent ces rails, murmura-t-il à Oté. Sentait-il l'appel du rayon? Jake en était persuadé. Il avait l'impression que quand il quitterait Calabrine Sturgis, s'il quittait Calabrine Sturgis un jour, ce serait par là. Il resta encore un peu sans bouger, ayant déchaussé ses étriers, puis il fit repartir le poney sur la route défoncée, vers le bâtiment. Il lui faisait penser à une hutte en tôle en plein camp militaire. Avec ses pattes courtes, Oté avait du mal à avancer sur le terrain accidenté. Le revêtement cabossé aurait été très mauvais pour son cheval aussi. Une fois passée la grille entrouverte, Jake mit de nouveau pied à terre et chercha un endroit où attacher sa monture. Il y avait des buissons tout près, mais quelque chose lui disait justement qu'ils étaient trop près, trop visibles. Il fit encore avancer le poney, puis s'arrêta et regarda autour de lui, à la recherche d'Oté.
Ici ? Ici, Oté, Acré.
Jake trouva d'autres buissons derrière un tas de cailloux qui ressemblait à un empilement de blocs de pierre miniatures et érodés. Il se sentit assez en sécurité pour attacher le poney. Cela fait, il caressa son long nez soyeux.
« Pas longtemps, promit-il. Tu seras sage. »
Le poney souffla par les naseaux et parut hocher la tête. Ce qui ne voulait absolument rien dire, Jake le savait. Et c'était sans doute là une précaution inutile de toute façon. Mais on n'était jamais trop prudent. Il retourna sur la route et se baissa pour prendre le bafouilleux dans ses bras. Dès qu'il se redressa, une rangée de lumière vive s'alluma. Le clown sur place, comme un insecte sous la lunette d'un microscope. Oté dans un bras, il leva l'autre pour se protéger les yeux. Oté gémit en clignant des paupières. Il n'y eut aucune sommation, on ne lui cria pas de décliner son identité. Il n'entendit rien d'autre que le suintement léger de la brise. Les projecteurs étaient vraisemblablement déclenchés par des détecteurs de mouvement. Et la suite? Des mitraillettes commandées par ordinateur dipolaire? Une attaque de petits robots redoutables, comme ceux que Roland, Eddie et Susanna avaient expédiés aux quatre coins de la clairière où commençait le rayon qu'ils avaient suivi? Ou peut-être un filet géant tombé du ciel, comme dans ce film qu'il avait vu à la télé, qui se passait dans la jungle? Jake leva les yeux. Pas de filet, pas de mitraillette non plus. Il se remit en marche, prenant garde aux énormes nids de poules et sautant par-dessus une ravine. Au-delà, la route penchait et était bardée de fissures, mais elle paraissait ininterrompue.
« Tu peux descendre maintenant, » dit-il à Oté. « Mon vieux, est-ce que t'es lourd ? Fais attention, bien je vais te mettre au régime Weight Watchers. »
Il regarda droit devant lui, plissant les yeux à cause du flot de lumière aveuglante. Les projecteurs étaient alignés juste en dessous de la ligne du toit de la hutte. Il lui dessinait une longue ombre noire qui s'étirait derrière lui. Il vit des cadavres de chats des roches, deux à sa gauche et deux autres à sa droite. Trois d'entre eux étaient déjà réduits à l'état de squelette. Le quatrième était dans un état de décomposition avancée. Mais Jake aperçut un trou, trop gros pour avoir été fait par une balle. Il misa sur un babolt. C'était une hypothèse rassurante. Aucune arme super sophistiquée ici. Pourtant, il était fou de ne pas retourner vendre à terre d'où il était venu, n'est-ce pas ?
Complètement fou, dit-il.
Ou,
répéta Otte, toujours sur les talons de Jake. Une minute plus tard, ils atteignirent la porte de la cabane. Au-dessus, sur une plaque de métal rouillé, il lut « North Central Positronics, couloir nord-ouest, cadran de l'arc, avant-poste 16, sécurité moyenne, code verbal d'entrée exigé. » Sur la porte elle-même, pendant au bout de deux simples crochets, il vit un autre panneau. Une blague ? Un surnom quelconque ? Sans doute un peu des deux, pensa Jake. Les lettres étaient rongées de rouille et usées par Dieu savait combien d'années de vent sableux, mais il arriva à les déchiffrer. Bienvenue au Dogan. 8. Jake s'attendait à ce que la porte fût verrouillée et il ne fut pas déçu. La poignée joua à peine. Neuve, il aurait été impossible de la faire bouger d'un poil. Une petite plaque métallique avec une grille et un bouton avait été placée à gauche de la porte. Le mot « verbal » était inscrit en dessous. Jake tendit la main vers le bouton et soudain les projecteurs du toit s'éteignirent, le laissant dans ce qui lui parut d'abord l'obscurité la plus totale. « Ils sont sur minuterie, » se dit-il, attendant que ses yeux s'habituent.
Courte, la minuterie. Ou peut-être qu'ils commencent tout simplement à fatiguer, comme tout ce que les anciens ont laissé derrière eux.
Ses yeux s'accoutumèrent de nouveau au clair de lune, et il vit de nouveau la petite grille. Pour le code d'entrée, il avait une petite idée. Il appuya sur le bouton. « Bienvenue à l'avant-poste 16 de l'arc du cadran !» dit une voix. Jake fit un bond en arrière, étouffant un cri. Il s'était attendu à entendre une voix, mais pas une voix qui ressemble à ce point à celle de Blaine le Mono. Il n'aurait presque pas été surpris de l'entendre prendre son accent à la John Wayne pour le traiter de petit fouineur. « Ceci est un avant-poste de sécurité moyenne. Veuillez donner le code d'accès verbal. Vous avez 10 secondes. 9, 8... »«
19, » dit Jake.
Code d'accès incorrect. Vous avez droit à un deuxième essai. 5, 4, 3.
99, proposa Jake.
Merci. Et la porte s'ouvrit dans un déclic. 9. Accompagné d'Otte, Jake pénétra dans une pièce qui lui rappela la grande salle de contrôle dans laquelle Roland l'avait porté, sous la cité de Ludd, alors qu'il suivait la boule d'acier qui les avait guidés jusqu'au berceau de Blaine. Cette pièce-ci était plus petite, mais les cadrans et les panneaux avaient l'air identiques. Il y avait des chaises derrière certains postes de contrôle, le genre de chaises qu'on fait rouler afin que la personne assise puisse passer d'un poste à un autre sans avoir à se relever. Il y avait un léger courant d'air frais, mais Jake entendait de temps à autre un cliquetis provenant du mécanisme qui commandait la soufflerie. Et bien que les trois quarts des panneaux fussent allumés, bon nombre d'entre eux étaient éteints. Vieux et fatigué, il ne s'était pas trompé. Dans un coin, un squelette dans un reste d'uniforme kaki exhibait un large rictus. Sur un côté de la pièce était alignée une suite d'écrans de téléviseurs. Pour Jake, ils évoquaient un peu le bureau de son père, même si ce dernier ne possédait que 3 écrans, un pour chaque chaîne. Alors que là, il y en avait... Il les compta. 30. 3 d'entre eux diffusaient des images floues qu'il n'arrivait pas à identifier. Sur 2 autres, défilaient des zébrures, comme si le tube avait lâché. 4 étaient complètement noirs. Les 21 autres projetaient des images que Jake contemplait avec un émerveillement croissant. Une demi-douzaine montrait des étendues désertiques, y compris le haut des collines protégées par les deux cactus informes. Deux autres montraient l'avant-poste. Le Dogan, vu de derrière et depuis la route. Sur la rangée du dessous, il vit sur les trois écrans l'intérieur du Dogan. La pièce sur le premier ressemblait à une cuisine ou à une coquerie. La deuxième était un petit dortoir apparemment équipé pour 8 couchages. Dans l'une des couchettes du haut, Jake aperçut un squelette. La troisième image montrait la pièce dans laquelle il se trouvait, vue d'en haut. Jake les voyait tous les deux, Otte et lui. Il y avait aussi un écran avec un tronçon de rail, un autre avec la petite Y de ce côté-ci, magnifique sous le clair de lune. Au bout à droite, il y avait la chaussée traversée par les rails. Ce furent les images sur les 8 autres écrans en état de marche qui stupéfièrent Jake. Sur l'une apparaissait l'épicerie générale Took, à présent déserte et obscure, fermée jusqu'au jour. À côté, il reconnut le pavillon. Puis sur 2 autres écrans, la grand-rue de la Cala. Puis l'église Notre-Dame de la Sérénité, le salon du presbytère, l'intérieur du presbytère. Jake voyait même le chat du père, Cafouin, endormi près du foyer. Les deux derniers montraient le village Mani, du moins Jake le supposa-t-il. Il n'y était jamais allé.
« Mais où sont les caméras, bon sang ?» se demanda Jake. « Comment se fait-il que personne ne les voit ?»«
Parce qu'elles étaient trop petites, sans doute, et parce qu'elles étaient cachées. »
« Souriez, vous êtes filmé par la caméra cachée. »
Mais l'église, le presbytère, des bâtiments qui n'existaient même pas encore quelques années auparavant. Et à l'intérieur ? À l'intérieur du presbytère, qui avait placé une caméra là et quand ? Jake ne savait peut-être pas quand, mais il avait un terrible pressentiment quant au nom de la personne qui l'avait fait. Dieu merci, ils avaient tenu presque toutes leurs palabres sous le porche, ou dehors, sur la pelouse. Mais même, comment savoir combien les loups savaient? Quelle était l'ampleur de ce que ces machines infernales, ces putains de machines, avaient enregistré et retransmis? Jake ressentit une douleur dans les mains et se rendit compte qu'il les tenait tellement serrées l'une contre l'autre que les ongles lui rentraient dans les paumes. Il eut du mal à les dénouer. Il s'attendait toujours à ce que la voix du haut-parleur derrière la grille, cette voix qui ressemblait tellement à celle de Blaine, le mette au défi, lui demande ce qu'il faisait là. Mais il n'y avait que le silence dans cette pièce qui n'était pas tout à fait une chambre de la ruine. Aucun son sinon le bourdonnement sourd des moniteurs et le zoom soudain des climatiseurs. Il jeta un œil par-dessus son épaule en direction de la porte et vit qu'elle s'était refermée derrière lui grâce à un système pneumatique. Il ne s'en inquiéta pas outre mesure, elle s'ouvrait sans doute aisément de ce côté-ci. Dans le cas contraire, ce bon vieux 99 le sortirait de là. Il se rappela comment il s'était présenté au Falcon de la Cala lors de cette première soirée au pavillon, une soirée qui lui paraissait déjà très lointaine.
« Je m'appelle Jake Chambers, fils d'Elmer de la lignée d'Eld, » leur avait-il dit. « Du quatet de 99. »
Pourquoi avait-il dit une chose pareille? Il n'en savait rien. Tout ce qu'il savait, c'est que tout commençait à ressurgir.
À l'école, Madame Averill leur avait lu un poème intitulé « La seconde venue » de William Butler Yeats.
Ça parlait d'un faucon qui tournait et tournait en une gire de plus en plus vaste, qui était, à en croire Madame Avery, une sorte de cercle. Sauf qu'ici, c'était plutôt une spirale, pas un cercle. Car le quatet de 19 ou de 99, car Jake avait le sentiment qu'il n'était qu'une seule et même chose, tous resserraient alors qu'autour d'eux le monde vieillissait, se relâchait, se refermait, et perdait des pans entiers de lui-même. C'était comme se trouver dans le cyclone qui avait transporté Dorothy au pays d'Oz, où les sorcières étaient réelles et où les guignols faisaient la loi. Au fond de lui, Jake ne trouvait pas étrange qu'il soit condamné à revoir toujours les mêmes choses, et de plus en plus souvent, parce que... Son œil fut attiré par du mouvement sur l'un des écrans.
Il vit le pas de Benny et Andy, le robot messager, qui arrivait par la colline gardée par les cactus sentinelles. Sur l'écran, les bras épineux se tendirent vers l'avant pour bloquer le passage et peut-être empaler leur proie. Andy, cependant, n'avait aucune raison de craindre les aiguilles de cactus. Il balança un bras et cassa net un des cactus en son milieu. Il tomba dans la poussière, faisant jaillir une matière visqueuse et blanche. Peut-être n'était-ce pas de la sève, après tout, se dit Jake. Peut-être que c'était du sang. Quoi qu'il en soit, le cactus de l'autre côté battit en retraite précipitamment. Andy et Ben Slightman restèrent sur place pendant un moment, peut-être pour discuter de la question. La résolution de l'écran n'était pas assez bonne pour permettre de voir si leur bouche bougeait ou non. Jake fut saisi d'un élan de panique effroyable qui lui noua la gorge. Son corps lui parut soudain trop lourd, comme s'il était aspiré par la gravité d'une planète géante, comme Jupiter ou Saturne. Il ne pouvait plus respirer. Sa poitrine restait parfaitement plate.
« C'est ce que Boucle d'Or aurait probablement ressenti, se dit-il de manière très vague et très lointaine, si elle s'était réveillée dans le petit lit qui était à sa taille pour entendre les trois ours rentrer. »
Il n'avait pas mangé la bouillie, il n'avait pas cassé la chaise du petit ours, mais il connaissait désormais trop de secrets, qui se résumaient en un secret monstrueux. À présent, il descendait la route, en direction du Dogan. Otte leva vers lui un regard anxieux, son long cou étiré au maximum, mais Jake le voyait à peine. Des fleurs noires étaient en train d'éclore devant ses yeux. Bientôt il s'évanouirait. Il le trouverait étalé sur le sol, ici même. Otte essaierait sans doute de le protéger, mais si Andy ne s'occupait pas du bafouilleux, Ben Slightman s'en chargerait. Il y avait quatre chats des roches morts dehors, et le pas de Benny en avait eu au moins un avec son fidèle bas. Un petit bafou-bafouilleux hargneux ne lui poserait aucun problème. « Tu es donc lâche à ce point ?» demanda Roland à l'intérieur de son crâne. « Mais pourquoi prendrait-il la peine de tuer un petit couard comme toi ? Pourquoi ne l'enverrait-il pas tout simplement à l'ouest, avec les rebuts qui avaient oublié le visage de leur père ?» C'est ce qui lui fit reprendre ses esprits. En grande partie, en tout cas. Il inspira très profondément, en gloutissant l'air jusqu'à s'en faire mal aux poumons. Il l'expulsa dans un « pouf » explosif. Puis il se flanqua une bonne gifle en travers du visage.
« Ok !»
s'exclama Otte sur un ton désapprobateur et presque choqué.
« Ça va, » répondit-il.
Il se tourna vers les moniteurs montrant la cuisine et le dortoir et opta pour le dernier. Il n'y avait nulle part où se cacher dans la cuisine. Peut-être un placard, mais s'il n'en trouvait aucun, il serait cuit.
« Otte, à moi, »
dit-il, et il traversa la salle bourdonnante sous les vives lumières blanches.